Claro.
Bonsoir, c'est bien Supersonic. Bienvenue à vous. Le son tout autour, mais vraiment tout le son tout autour. Le son environnant. On peut en faire des choses avec le son tout autour, et en retour, il nous en fait des choses. Ping-pong, ça s'en va, ça revient, ça vibre incessamment. Ce soir, on risque de parler de son du réel, de field recording, de composition avec tout ça. On risque aussi de parler d'algorithmes, de préconisation, de propositions d'écoute par nos plateformes musicales préférées. Tout ça, ça fait notre environnement sonore. Et on va voir que vraiment la culture a ses machines et que les machines ont leur goût, leur culture. Salut les androïdes. La question des recommandations par les plateformes. On en parle tout à l'heure avec une chercheuse, Stéphane Héloïse Gras, qui travaille à la chaire pour un humanisme numérique à la Sorbonne. Et par ailleurs, c'est la journée mondiale de la radio. Aujourd'hui même, encore quelques minutes, encore presque une heure. Votre fête est la nôtre, on en parlera aussi. Et d'abord, nous discutons avec un compositeur qui sait ce que c'est qu'un son, Éric Lacaza. Bienvenue à vous. De danser là, s'il vous plaît. Bienvenue, bonsoir Éric Lacaza.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je parlais de field recording tout de suite. Le nom a été donné dans ces premières secondes de l'émission. Avant ça, il faut savoir qu'on a ouvert, non pas avec notre indicatif habituel, mais on l'a précédé d'un extrait d'une pièce à vous, intitulée Le Havre. Enfin, cette pièce-là s'intitulait Le Havre. Vous avez enregistré des ports, c'est ça? Les zones portuaires?
Oui, dans le port, là, on est dans Le Havre 2000, en fait, dans la salle des contrôles. Donc c'est toute une série d'enregistrements qui ont été effectués effectivement dans le cadre d'un festival qui s'appelle Pieds Nus, qui a lieu une fois par an. Donc c'est une invitation qui nous a permis d'aller sur le port, c'était une belle occasion et en l'occurrence c'est fascinant parce que c'est tout un monde sonore en soi.
Mais comment on vous accueille, vous, avec vos machines enregistreuses dans cette zone de portuaire et dans cette partie de contrôle du port?
Ça demande des autorisations.
Ouais.
Malheureusement, on n'entre pas sur un port comme ça, donc il faut des autorisations. Ça nécessite plusieurs mois pour les obtenir, souvent. On vient d'une école d'art, on vient d'un festival, donc il y a des portes d'entrée qui se font dans le port. Là, l'autorisation a lieu sur une journée complète. Donc on utilise son temps au maximum. Pour effectivement rencontrer le maximum de situations et notamment cette salle de contrôle qui est assez fascinante puisque les voix, les ordres, l'espace en lui-même a une couleur, on est vraiment sur le port.
Mais quand je disais comment on vous accueille, justement, alors effectivement, il y a la partie bureaucratique des choses, mais quand on arrive, quand vous arrivez avec vos machines enregistreuses, avec vos enregistreurs, avec vos micros, face à ces autres machines, est-ce qu'il y a un échange avec ceux qui les utilisent habituellement, ceux et celles qui les utilisent? Et est-ce que les gens se rendent compte qu'ils ont sous les oreilles à longueur de journée une matière qui pour vous va faire office de matière à création et de musique?
Je crois qu'ils en prennent conscience très tôt en fait, parce que déjà c'est une zone extrêmement turbulente, parce que quand on est à l'extérieur, on vous explique très rapidement que c'est quasiment impossible de marcher. Donc, on peut se rendre d'un point à un autre à travers par un véhicule si vous voulez, mais on ne peut pas vraiment y marcher. Donc, un preneur de son, il est toujours en train d'aller d'un point à un autre en général, et il y marche. Mmh. Donc, c'est la première condition qui est déjà difficile, et pendant qu'il marche, il pense. Donc, il pense ce à quoi il tend constamment, c'est-à-dire il cherche quelque chose.
Mmh. Sans trop savoir ce que c'est. Si.
Voilà, nous, bien sûr. Ouais. Donc, pendant qu'il marche, en général, il réfléchit et il écoute. Et ça lui permet de faire déborder déjà son écoute de tout un tas de choses qui étaient a priori données dans sa façon de concevoir le port, par exemple. Et donc là, ça lui permet d'être au contact de quelque chose qui le dépasse. Et là, on n'a pas l'occasion. Donc, on réfléchit souvent dans un véhicule, puisque...
Parce qu'on peut pas marcher.
Et donc, on est dans une espèce de cage de Faraday au niveau sonore, ouais. Puisqu'on n'entend rien, ou quasiment rien. Et donc, après, on sort du véhicule, et là, le monde s'ouvre. Et là, on a envie de tout faire, tout enregistrer. Et comme souvent, c'est une question de temps. Donc, il faut rester dans les lieux. Mmh. Et là, le temps est compté. Donc, il y a vraiment des contraintes. C'est dangereux, le temps est compté. Et en plus, on peut pas enregistrer n'importe quoi, n'importe qui, puisque effectivement, chacun maintenant est à même de comprendre que ce qu'il dit ou ce qu'il fait peut avoir des conséquences sur un avenir proche, par rapport à lui ou par rapport à sa famille, par rapport à d'autres. Donc effectivement, cette cellule, on peut appeler ça une cellule de pilotage du port, on m'a laissé enregistrer un moment où l'activité était ordinaire. Mmh. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, il n'y a pas d'enjeu et il n'y a pas non plus... chacun ne dit pas tout à ce moment-là. C'est-à-dire, on dit, attention, on enregistre. Bien que ceux qui sont dans les fameuses tours, là, qui pilotent les fameux containers d'un point A vers le bateau B, là, effectivement, eux, ils lâchent carrément des choses qui sont dans leur ordinaire. Donc, la parole est libre. Par contre, ceux qui sont dans la cabine de pilotage qui indique quel container, à quelle heure et vers quoi, eux, là, par contre, leur parole est contenue. Donc, il y a cette ambivalence, en fait, déjà.
Et donc vous avez jonglé entre ces moments de silence et le moment de sorte de décompression sonore où vous en preniez énormément dans les oreilles et dans les micros, ouais. Et puis des différentes ambiances entre les différents lieux, les différents bureaux, c'est ça?
C'est ça, oui. Moi, ce qui m'intéressait là, en l'occurrence, c'est effectivement l'espace, parce que je crois toujours que l'espace a une propriété particulière par rapport à une situation donnée. Et notamment, là, les voix sont incroyables. J'adore les voix à cet endroit-là, les voix qui sont en direct avec moi dans le même espace et les voix qui arrivent depuis les porte-containers.
Mmh, filtrées par les outils qui font une matière sonore particulière, justement. À quel moment, Eric Lacaza, quand vous enregistrez ce qu'on a entendu vraiment à l'ouverture de cette émission ce soir, alors, est-ce que ce qu'on a entendu est quelque chose de très monté ou est-ce que c'est un élément, voilà, une tranche d'enregistrement où vous vous êtes dit, là, il y a une valeur sonore?
Non, là, la séquence dure une minute, donc c'est une séquence qui doit durer à peu près 7-8 minutes où on m'a laissé libre d'enregistrer, effectivement. Donc à partir de là, j'enregistre quelque chose qui est intéressant d'un point de vue documentaire, mais dont les propriétés me semblent plus pouvoir, en tout cas, ou recèlent une qualité, des qualités qui pourraient aller vers une musicalité pour moi. Et donc, à ce moment-là, je me permets d'apporter autant une espèce de compression qui fait que tout d'un coup, ça sédimente quelque chose de plus fort que j'ai entendu à travers ces 7 minutes, admettons, de temps. Et là, effectivement, je découpe. Mmh. Ouais, je découpe. Je garde les voix, des traces aussi de cette électronique, de ces diffusions radio. Et donc, il ne reste plus qu'une minute, je crois, au final.
Exactement, 1:17. Vous composez avec ce son.
Oui.
Vous dites ça comme ça.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il faut, à nouveau, encore une fois, ce mot, ces deux mots field recording, il faut en parler. Ce qu'on a entendu là avec cet extrait d'enregistrement au Havre, c'est donc des captations du réel, on l'a compris, c'est du son documentaire initialement. Mmh. Et de ce son-là, vous le manipulez, vous le montez éventuellement, vous le compressez, comme vous dites, ou vous en faites d'autres manipulations. Et donc, ce qui fait de la matière du réel une matière à composition. C'est ça le field recording, Eric Lacaza?
Enfin, c'est ça pour moi.
Oui.
C'est-à-dire que j'y mets une intention de composition esthétique au départ dans ma prise de son, mais quand je réécoute chez moi, je sens que quelque chose d'autre est possible et que ce quelque chose, il aura une durée qui s'appuie sur celle documentaire, mais qui ne sera pas celle, au final, qui sera écoutée par l'auditeur. Parce que j'y mets une intention autre, esthétique, encore une fois, qui s'appelle la composition.
Mais on va voir comment, jusqu'à quel point justement ce son peut être repris en main, ressaisi par vous pour être transformé en composition et entrer dans la sphère à la fois de l'art sonore et de la musique, parce qu'on n'est pas là ce soir ici pour opposer les choses, si vous êtes d'accord avec moi.
Absolument.
Et parlons d'un projet récent, paru récemment, mais qui a une histoire de quelques années, qui s'intitule Reflected Waves, ondes réfléchies, que vous avez mené avec Jean-Luc Guillonnet. Ça donne lieu à la publication d'un livre et d'un DVD chez Passage d'encre Trace. C'est une histoire qui commence quasiment aux antipodes, Reflected Waves, c'est ça?
Oui, c'est une longue histoire en fait. Je ne sais pas si je dois faire une généalogie ou si je dois parler de ce projet à partir du moment où on arrive, où on pense le projet et on arrive sur le terrain. Je ne sais pas, dites-moi.
À partir de quand doit-on commencer à parler de ces ondes-là, peut-être de ces ondes réfléchies? Ben, je vous propose qu'on écoute un début de ces ondes réfléchies. Et puis on
ça
va.
Ça pourrait être une hypothèse.
Voilà, c'est une première hypothèse. Les Reflected Waves de Jean-Luc Guillonnet et Eric Lacaza.
Center.
il y a des événements sonores. Dans ces quelques minutes seulement qu'on a écouté de d'un extrait de ces ondes réfléchies, Eric Lacasa, des événements sonores qui font la composition, mais ça ne nous dit toujours pas l'histoire de Reflected Waves. Alors, premier indice, c'est que ces sons-là sont des sons de Melbourne.
Oui.
Voilà, captés à Melbourne. Et c'est une histoire qui commence par une invitation, en fait, qu'on vous fait, Jean-Luc Guionnet, et à vous-même. Je crois que c'est Philippe Saint-Martis, le compositeur, qui vous invite.
Ouais.
À quoi ? Une résidence ? Une résidence d'artiste à Melbourne ?
Oui, c'est ça. Une résidence dans le cadre d'un festival qui s'appelle Liquid Architecture, qui a lieu tous les ans à Melbourne, qui est le festival de musique contemporaine, on va dire, et des arts sonores. Et donc, c'est une invitation qui a lieu fin 2004 pour l'année 2005, justement, et voilà.
Et donc, ça commence, et vous vous dites, ben, il faut fabriquer quelque chose. Voilà, il faut un objet à cette résidence.
Oui, au départ, on nous avait... comme toujours, on nous a. C'était presque une carte blanche. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, puisque c'est un peu ça, c'est très ouvert. Donc réfléchissez-y et on se recontacte dans quelques temps. Donc dans ce laps de temps, on a très vite imaginé l'idée de faire une installation. Oui, ça c'est. Puis on aime. C'est un projet. Enfin, ce genre de projet qu'est l'installation nous est très. Très cher en fait par rapport à la question de la durée de création. C'est pas simplement un concert, une espèce de one shot, c'est vraiment toute une réflexion sur un territoire qui est fait dans une durée qui nous permet de développer des idées en fait.
Oui, l'installation ça permet à la fois de proposer quelque chose qui dure dans le temps, mais ça croise aussi un intérêt qu'on entend finalement aussi dans la pratique du field recording, qui est celle de la géographie. Du territoire, non ? Et qu'on entend dans Reflected Waves. Il y a une question vraiment géographique, quoi, qui s'intègre à l'intérieur de cette pièce-là.
Oui, tout à fait. Là, au départ, c'est une grande idée. C'est celle de. On se pose une grande question. Comment se représenter une ville ? Comment se représenter un réel ? Celui, en l'occurrence, de Melbourne. Une situation qui nous est parue immense au départ, puisqu'on n'avait jamais mis les pieds en Australie ni à Melbourne, donc et on a essayé d'imaginer un projet qui vaudrait pour toutes les villes d'une certaine manière, une façon de se représenter un territoire sans y avoir mis les pieds, selon au départ un processus de travail qui vaudrait pour toute ville.
Une sorte de méthode, quoi.
Une sorte de méthode qui serait basée sur un protocole clair. Et puis, à partir de là, tout bascule puisqu'on se retrouve sur le terrain.
Oui, c'est ça.
Et on doit se coltiner justement à tout ce qui arrive. Et malgré tout ce qu'on avait essayé de tenter au niveau du protocole, on est débordé en fait. Et dans ce débordement, si on est seul, c'est un peu compliqué effectivement. On pourrait s'en tenir au protocole, se dire bon, rien à voir. Là, en fait, on en a profité. Et donc on a fait face à toutes ces affluences et les influences aussi. Donc le projet c'est aussi à propos de tout ça. Et quand on est deux, c'est pas non plus une mince affaire parce qu'il y a une espèce de dialogue qui se fait à la fois sur le terrain et entre nous et les habitants. Et à chaque fois il y a des affluences qui arrivent et qui nous conduisent à remettre en cause ou à remettre à plat parfois ce qu'on croyait ou justement en essayer de sortir de la croyance, mais nos petites certitudes en fait. Et tout le projet tourne autour de ça en fait. C'est-à-dire comment s'en sortir avec cette question de représenter un territoire qui a une géographie particulière puisque Melbourne, au sens où on l'entend, n'est pas une ville européenne, même si elle en a les accents, on va dire. Parce que il reste quand même un centre-ville qui serait une espèce de la défense, ce que la défense pourrait être au centre-ville de Paris.
Le quartier des affaires,
voilà,
en fait.
Un gros quartier des affaires, voilà. Avec à l'intérieur les universités quand même, pas que des affaires. Et à partir de là, jusqu'où ça va? Ça, c'est toujours une question pour nous. Est-ce qu'une ville, ça se finit? Donc c'est, au départ, c'est vraiment, on essaye de comprendre Qu'est-ce que c'est que Melbourne, en fait?
Alors, vous fonctionnez comment avec Jean-Luc Guillonnet? Vous êtes dans la galerie, ensuite vous êtes dans la rue, ensuite vous êtes dans la ville, enfin vous faites les cercles concentriques. Comment ça se passe? Parce que la question de la topographie mais est importante, j'ai l'impression.
Oui, c'est-à-dire qu'on a commencé par vraiment arpenter ce fameux business district, dans lequel on va rue par rue établir des relevés. Ces relevés, on les avait plus ou moins considéré avant d'y aller. C'est-à-dire, on avait dit des relevés courts, à la volée, un peu, pas au hasard, mais selon une dérive qu'on a pas anticipé, mais qu'on a souhaité.
Dérive maîtrisée, voilà, protocole.
Il y avait suffisamment de rues, suffisamment de de possibilités. Et après, ne pas se dire, je fais ça parce que ça m'intéresse. Voilà, essayer de trouver des protocoles pour se sortir du goût, en fait, dès le départ.
Se contraindre.
J'enregistre très peu et selon un protocole strict par rapport à mes goûts personnels. Non, tout ce que vous entendez ne m'intéresse pas, en fait. Mais c'est ce qui arrive. Mmh. Voilà. Et ça signifie quelque chose du territoire. Voilà.
Alors, sur la couverture du livre où vous explicitez Reflected Waves, donc chez Passage d'encre trace, qui contient un DVD, non pas un CD, on va y revenir, il y a une pièce, trois haut-parleurs, c'est ça, et un tapis rouge, donc il y a quelque chose de plastique. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui Reflected Waves, ce dispositif?
C'est le dispositif qui a été présenté à Melbourne. Il y avait trois galeries, en fait. 12 enceintes... différents espaces, différentes façons d'envisager. C'était une grosse composition, si on peut dire, dans trois espaces différents, selon une même composition. Donc, c'est pour ça que le DVD est une retranscription de ces trois espaces qui comportaient trois films. Avec, il y a tellement de choses que c'est un peu compliqué.
Oui,
en fait.
Mais justement, il y a quand même une question qui se pose avec la Casa. C'est la question de l'image. C'est-à-dire, pourquoi l'image à un moment donné?
C'est une bonne question parce que, en fait, c'est une question qu'on s'était pas posée du tout. Ouais. C'est-à-dire, on est parti pour faire une installation sonore. Il n'était pas question de l'image. Mais ça a commencé par le fait que depuis un certain temps, qui précédait effectivement l'arrivée à Melbourne, lorsque je faisais des projets, je faisais une petite prise de vue. C'est-à-dire, je fais une prise de son, oui, mais j'ai besoin de garder une prise de vue. Pour une raison à la fois documentaire, peut-être un peu archiviste de ce point de vue-là, mais je ne sais pas, ça donne quelque chose, une espèce de mémoire, au sens vraiment, sans y apporter une qualité esthétique, là. Mais en même temps, il y avait une qualité esthétique puisqu'il y a un regard particulier.
Et l'idée, est-ce que c'est le fameux 1 plus 1 égale 3? C'est-à-dire qu'il y a cette image, il y a le son, et quand on regarde, quelque chose se passe entre les deux sans forcément qu'il y ait une synchronicité.
Quand on a fait ces prises de vue, on ne l'a pas pensé. C'est-à-dire, la conséquence de ça, au fur et à mesure, est pensée, mais à la prise de vue, non. On ne s'est pas dit, ça va multiplier effectivement les possibles. Oui, mais en fait, c'était une espèce d'analogon au départ pour dire ce que vous entendez est possiblement visible. Et je vous en présente une version avec peut-être maladroite, mais une photo à chaque fois qui retranscrit cet instant-là. Et puis au bout d'un moment, Jean-Luc, qui avait amené sa caméra, a dit « mais il faudrait la confronter à un plan ». Un plan séquence. Donc ça s'est fait vraiment comme ça. Y a un côté comme ça, presque sériel, d'avancer et de travailler la question couche par couche, puis après de composer vraiment. Et là, c'est dans la composition où, au bout d'un certain nombre de jours à arpenter ce terrain, on a commencé vraiment à composer, à penser la chose d'un point de vue de la composition finale. Ouais.
Rapport entre le terrain, le lieu, et puis le son, et ce qu'on peut faire du son de ce lieu. Voilà quelque chose qui m'a l'air d'être complètement au centre de votre activité, Eric Lacasa. Autre exemple avec ça.
France Culture, Supersonique de Thomas Baumgartner.
Nous sommes en pleine nuit, dans un grand bâtiment, vide.
Du vide, oui.
Si tout se passe bien.
Ou presque.
Vous avez été invité, encore une fois, on vous invite, vous et vos micros, apparemment avec la CASA régulièrement, en l'occurrence, à la fondation Louis Vuitton, il y a un peu plus d'un an, c'est ça?
Oui. D'abord, c'est l'invitation d'un autre artiste sonore, qui s'appelle Tarek Atoui, qui a reçu une commande de la fondation Vuitton pour l'ouverture, qui a eu lieu en 2014. Donc c'était pour octobre 2014. L'invitation était assez ouverte, donc il a proposé que des preneurs de son viennent dans le bâtiment en amont de l'ouverture pour spécifiquement enregistrer le bâtiment tel qu'il est. Non pas tel qu'il sera avec les visiteurs ou même les gens qui y travaillent, mais vraiment le son du bâtiment, vide, si ça peut exister. Donc une fois que le bâtiment a été construit, ou presque, il a fait cette invitation donc à quatre preneurs de son, donc j'y étais. Il y avait Chris Watson, il y avait Fred Nogret et Stéphane Rive. Donc des approches qui étaient volontairement très différentes par rapport au bâtiment. Et à partir de là, chacun avait carte blanche pendant une semaine de venir dans le bâtiment vide à l'heure qu'il le souhaitait pour faire ce qu'il souhaitait, d'une certaine manière, à sa manière. Donc c'est un projet d'écoute, effectivement, d'un bâtiment, un bâtiment pour lui-même.
Mais est-ce que ce bâtiment qui a été, dont l'architecte est Franck Guéry et qui est chargé même en image lui-même, c'est-à-dire que c'était un bâtiment qui ressemble à un paquebot, un bateau, il y a des courbes un peu partout dans ce bâtiment pour figurer, en tout cas tel que c'est dit par Franck Guéry, des voiles par exemple, il y a un imaginaire, il y a du bois aussi, et est-ce que ça vous contraint, vous? Est-ce que vous dites je m'approche de ce lieu en fonction de cet imaginaire? Est-ce que je me l'approprie, et quitte à être en contre-pied? Comment ça se passe?
Moi, en fait, quand on m'appelle, en fait, j'essaye justement de réfléchir à toutes ces questions en amont. Et quand j'arrive sur le terrain, vraiment, je me pose plus de la question de savoir si c'est Franck Guéry ou si c'est un autre. La couleur du bâtiment. Je m'intéresse qu'à l'acoustique, en fait. Qu'à cette façon particulière qu'ont les espaces d'être ce qu'ils sont. Et à partir de là, j'écoute.
Une écoute à l'aveugle, quasiment, c'est ça?
Oui, je pourrais fermer les yeux. Et à partir de là, effectivement, je peux commencer à penser.
Mais j'ai une question, c'est un peu bête a priori, mais comment on enregistre, Éric Lagaza, un bâtiment qu'on souhaite vide, donc en plus la nuit? Qu'est-ce que ça fait comme son? Comment on va chercher le son dans ce bâtiment où on souhaite en plus qu'il n'y ait pas d'activité au moment où on enregistre?
En fait, c'est très simple. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas de vide au sens...
Il n'y a jamais de vide, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il y a toujours de la matière quelque part qui est en mouvement. Et dans un bâtiment même vide, moi j'ai travaillé par exemple sur la question de l'air parce que j'aime ça, et j'étais absolument par contre intéressé pour savoir comment l'air circulait dans le bâtiment, ouais. Parce que Franck Guéry nous parlait de ses voiles, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il en reste dans ce bâtiment, et j'étais frappé en le visitant de ne pas ressentir le vent me frôler à l'intérieur.
Pas d'air conditionné, vous voulez dire?
Alors, non, justement, je m'attendais à ce que l'air, d'une certaine manière, m'envahisse de façon plus récurrente d'un espace à un autre. Et en fait, non, c'était de l'air conditionné au sens strict du terme, donc mis en œuvre par des architectes et des ingénieurs, et avec une façon très normée, je dirais, de concevoir l'espace et l'air dans un bâtiment. Donc rien d'extravagant, et je me suis mis à enquêter, d'une certaine manière, sur cet air. Donc d'abord, il est produit dans des machineries dans les sous-sols. Il est chauffé aussi. Donc c'est pas surtout que le bâtiment est assez grand, donc c'est forcément, il est agité, l'air est agité. Donc même quand on se trouve dans une grande galerie comme j'ai pu le faire, vide c'est-à-dire sans aucune œuvre même. Hein. Il y a forcément une agitation de l'air, une agitation qui est liée à la fois à cette hélice qui pulse et qui forcément communique sa vibration dans tout le bâtiment. Il y a aussi des bruits électriques, parce qu'il y a de l'électricité partout. Et on sait que l'électricité se transmet aussi dans l'air à travers ces vibrations qu'on peut ressentir parfois et qu'on peut entendre souvent dans des bâtiments qui sont vides.
Mais est-ce que vous avez développé, vous, une oreille particulière qui fait que quand vous êtes entré dans ce studio ce soir, par exemple, ou quand vous entrez, je sais pas, dans d'autres lieux, à la poste, à la banque, au quotidien, est-ce que vous avez développé une oreille qui fait que vous êtes sensible à ce type de bruit mécanique, qui sont devenus des bruits humains aussi, mais vous les repérez plus que d'autres?
J'espère pas, sinon je tomberai fou.
C'est vrai.
Non, c'est vrai qu'il y a un moment, effectivement, ça m'a traversé l'esprit. Mais alors, c'est vrai qu'on est sensible. Je peux pas rentrer dans un espace sans l'écouter. De la même manière que je peux pas rentrer en contact avec quelqu'un sans l'écouter au préalable. Il y a toujours une dimension vraiment très importante pour moi de l'écoute. Avant de parler, c'est bien d'entendre la personne. Et dans un espace, c'est pareil. Et donc, cette question de l'écoute, même si elle est généralisée à toute ma vie, j'essaye quand même, à certains moments, de passer de l'écoute juste à l'entendement simple.
Il n'y a pas de paupières, mais on peut essayer de mettre un filtre, c'est ça?
Ouais, c'est comme... Non, si je commence à chercher les événements partout, je crois que là, j'arriverai plus à trouver le sommeil, effectivement.
Il nous reste une petite minute, Eric Lacaza, pour parler d'un disque tout récent aussi, intitulé Soundtracks, dont la pochette montre un relief, une montagne verte. Et là, on entend un extrait de Grammar for Listening, une grammaire pour l'écoute. Et ce sont des morceaux qui ont d'abord été destinés à soutenir une image ou à marcher avec une image, avec des films. Comment on décide que ce qu'on a fabriqué pour une image tient debout et se destine au CD ensuite?
Ça, c'est une grande question.
Une minute. 30 secondes.
En fait, ce qui est bien, c'est que dans tous ces projets, je suis libre.
Ouais.
C'est-à-dire que la question de l'image, elle est parallèle. Elle n'est pas, je n'ai pas d'obligation. Donc, lorsqu'on me confie le son, c'est qu'effectivement, on pense qu'il y a une dimension sonore à développer, mais qu'elle n'est pas au préalable dictée par un diktat, justement, de l'image. Et donc là,
on vous demande pas d'illustrer.
Non, d'ailleurs, je crois que c'est impossible.
Degré, ouais.
Les dimensions visuelles et sonores sont souvent, pour moi, sont distantes. Elles n'ont pas nécessairement une, comme je le disais par rapport à Guéry tout à l'heure et à son architecture, elles n'ont pas forcément une corrélation. Et je trouve que c'est bien quand justement les deux sont parallèles. Parce que justement, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au 1 plus 1 égale 3, j'y crois vraiment. Si j'essayais d'illustrer quelque chose, je crois que je tomberais à côté parce que je ne suis pas qualifié pour faire le bruiteur ou je ne sais
quoi.
C'est ça,
oui, c'est là-dedans qu'on tomberait.
Oui, je crois qu'il y a une dimension comme ça qui est trop illustrative pour moi et qui ne me convient pas, en fait. Puis c'est pas comme ça que j'écoute le monde, en fait.
Merci beaucoup Éric Lacazette d'être passé dans le studio de Supersonic pour nous expliquer quelques éléments de vos travaux, en particulier ces travaux récents, Reflected Waves, Ondes Réfléchies et puis Soundtracks, dont on a entendu cet extrait. Je rappelle que, puisqu'on a parlé de field recording, où vous avez tenu quelques propos sur le field recording dans une conférence qui a été rassemblée avec d'autres conférences dans un livre intitulé « L'expérience de l'expérimentation » dirigé par Mathieu Saladin, et c'était paru il y a quelques mois aux presses du réel, si je ne me trompe pas, c'est bien ça?
Absolument.
Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de flux d'une certaine manière.
Merci à vous.
Février aujourd'hui, et encore quelques minutes, c'est la journée mondiale de la radio. Perdu l'éphémère. La réécoute tend à être constamment possible. L'éphémère échappe à la radio. Plus exactement, il réside désormais complètement dans le camp de l'écoutant. Il concerne non plus l'écoute, mais les conditions d'écoute. Il retourne à la vie même. Le flux n'est plus celui du parleur, il retourne au seul temps. Il est dans la rencontre entre la parole et le moment. Voix de radio, détends-toi, tu ne peux plus grand-chose. L'épiphanie de l'auditeur tient autant à ce que tu dis qu'à l'axe du soleil au moment où c'est entendu, au repas pris la veille, à la perspective du repos, à l'humeur amoureuse. Ta seule chance de garder encore un peu la main est de tenter la télépathie avec ton auditeur pour jauger ce qu'il faut dire, quand et comment le dire. Tu dois donc te tourner vers tes voisins, collègues, chamans, sorciers ou tout autre rebouteux qui savent, eux, depuis longtemps, qu'on ne joue pas de l'onde impunément. Tu es occulte, il faut bien l'assumer. Quiconque veut maintenir la fragilité de l'éphémère doit varier les écritures et les rythmes, les focales et les notes, approcher l'impalpable autant que le raisonnable, laisser parler les fous, quitte à les encadrer, pour produire du sensoriel et multiplier les chances d'accompagner l'écoutant. La beauté éphémère de la radio, en flux démultiplié, passera par la constance du croche-pied dans le fil du micro. La survie de la radio viendra de sa faculté à maintenir l'accident. Si tout est ramené au même plan, au même rythme, à la même note, l'entente de la radio comme flux ne sera plus possible. Ça s'éteindra comme une bougie en fin de mèche. La pièce sera juste un peu plus sombre, mais ça ne fera pas de bruit. Ça ne fera plus de bruit. La question du stream relance les dés sur le tapis vert. En absence de variation du signal, l'écoute streamée accélérera l'extinction radiophonique. Si la parole ne s'adapte plus au temps, au moment, à l'ambiance, si on ne recherche plus de partage humoral, ce qui ne signifie pas complaisance dans la mélancolie ou dans la joie, mais simplement sympathie, alors l'écoutant ira chercher un flux plus ou moins découpé et non plus la radio. En revanche, si le souci d'entretenir la rupture et la syncope est toujours là, le stream ajoutera une troisième dimension à la question de la programmation et de l'échange avec l'auditeur. Tout sera possible, tout le temps. Up-down et bottom-up. Et non, ce n'est pas de l'interactivité, mais simplement le partage de certaines vibrations. deuxième partie de Supersonique. Du streaming, il va être à nouveau question avec l'invité de cette deuxième partie, et de flux dans la suite de ce qu'on se racontait avec Eric Lacaza à l'instant. Stéphane Héloïse Gras, un parcours qui de tout temps se partage entre philosophie et musicologie. Elle est chercheuse, actuellement postdoctorante au sein de la chaire pour un humanisme numérique à la Sorbonne à Paris. Elle a travaillé pendant plusieurs années sur un domaine qui évolue vite mais qui se stabilise ces derniers temps et fait autant que le bruit de la rue ou la voix de nos proches partie de notre environnement sonore. Il s'agit des plateformes de musique en ligne. Il y en a plusieurs. Elles sont devenues le mode d'accès aujourd'hui privilégié à la musique. Ce qu'ont pu être les radios musicales pendant tout un temps. Dans les radios musicales, a priori, il y a des programmateurs sur les plateformes musicales qui individualisent, qui personnalisent leurs propositions d'écoute. Il y a des algorithmes, des calculs complexes qui aboutissent à des propositions, donc des propositions d'écoute. Comment les algorithmes, comment les machines façonnent ou peuvent façonner d'abord notre environnement sonore et ensuite nos propres goûts, voilà sur quoi Stéphane Héloïse Gras a travaillé en quelque sorte.
En quelque sorte, oui. J'ai travaillé sur un algorithme de recommandation musicale qui s'appelle Econest. Et je me suis interrogée sur comment est-ce que cet algorithme qui a alimenté la plupart des grandes plateformes populaires de musique en ligne ces 10 dernières années, instituait une forme d'esthétique musicale ou en tout cas véhiculait certaines manières de penser le son, l'écoute et la musique.
Grosso modo, quand on est sur Spotify ou sur Deezer, comment ça change nos propres goûts et notre propre rapport au son et à la musique ?
Ouais, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, comment est-ce que ça s'inscrit aussi dans une histoire longue du rapport au son et à la musique, de la disponibilité de la musique et de... voilà. Et après, je me suis intéressée surtout à comment est-ce que cette technologie en particulier permettait de nouvelles formes d'appropriation de la musique et donc un nouveau rapport ou une nouvelle culture que j'ai appelée webophonie.
Webophonie ?
Ouais.
C'est-à-dire, web, c'est la toile, et donc phonie, c'est le son.
Phonie, c'est... En fait, c'est un néologisme que j'ai emprunté à un philosophe qui s'appelle Peter Zanni, que vous connaissez.
Oui, qui est venu dans ces studios-là, et qui est un des philosophes, un peu en France et ailleurs maintenant, qui est reconnu depuis un petit moment, un des tenants de ce qu'on n'appelle pas encore en France les sound studies, mais qu'on va pas tarder à appeler comme ça, ça commence à venir.
Peut-être. Peut-être qu'on trouvera un autre terme aussi.
Mais... Oui.
Donc, peut-être que ce sera d'ailleurs webophonie ou discophonie. Mais Peter Zanni parle de discophonie pour parler de comment est-ce que le disque crée et véhicule une nouvelle culture de l'écoute. Voilà. Et donc moi, je me suis intéressée à comment est-ce que le web et l'intelligence artificielle, ou plusieurs formes, différentes formes d'intelligence artificielle, créent une nouvelle forme d'écoute.
Ça veut dire que la technique, puisque vous ne parlez pas seulement du web, à l'instant même vous parliez du disque, la technique n'est pas neutre en fait.
Oui, on peut dire ça comme ça. Précisément, concernant le web et le numérique, on ne peut peut-être plus tellement parler de technique. Mais en tout cas, la manière dont nous arrivent les morceaux de musique, le son, instruit et construisent une forme de culture.
Vous parlez de machine du goût.
Ouais.
C'est quoi les machines du goût ?
Les machines du goût, c'est ce que d'autres chercheurs peuvent appeler aussi les industries de la recommandation. En gros, c'est tout ce dispositif et toutes ces technologies et techniques qui permettent par le biais de calculs mathématiques de construire le goût sur Internet. Donc en gros, les machines du goût, c'est quand vous êtes sur Amazon et qu'on vous propose des éléments, des disques ou des livres qui seraient susceptibles de vous plaire, mais c'est aussi quand vous êtes sur Spotify et que vous écoutez une playlist et qu'on va vous recommander une playlist qui va être plus ou moins similaire. Mais après, les machines du goût, elles peuvent aller beaucoup plus loin que de la simple prescription, puisque derrière, ce sont des technologies et des techniques du langage musical et du son en général qui permettent de développer plein d'autres applications et plein d'autres situations et expériences d'écoute.
Comme quoi, par exemple ?
Comme, par exemple, un album application de Björk qui s'appelle Biophilia, qui est un peu un exemple le plus connu. Mais en fait, ce sont des technologies qu'on appelle le MIR, le Music Information Retrieval, qui permettent en fait de faire de la recherche dans le son et dans la musique, et qui vont avoir dans leurs applications grand public, on va dire, cette dimension de recommandation automatique, mais qui peuvent aussi avoir comme... produire et créer de nouvelles formes, de nouvelles productions culturelles, comme des sons et des images mélangées et interactifs en ligne.
Ça veut dire que c'est, en parlant au départ de recommandations, ce qu'on voit très bien, qu'on soit sur des plateformes musicales ou ailleurs, dès qu'il s'agit de consommation un peu culturelle en ligne, on voit très bien, vous avez aimé ceci, vous aimerez cela. Vous soulignez qu'on va beaucoup plus loin déjà, et que la pratique artistique, que la production des artistes est déjà d'une certaine manière sujette à comment dire, on va pas mettre des mots trop chargés parce que contamination c'est chargé en sens, mais modifié par tout simplement l'univers numérique dans lequel on baigne, quoi qu'il en soit.
Je crois que les artistes en tout cas interrogent cette modification. Je pense que beaucoup le font et ils le font consciemment et ils le font aussi pour nous dire quelque chose. Mais oui, ce que je veux dire, c'est en tout cas ce qui m'a intéressé dans le cadre de mon travail de recherche, c'était de voir aussi comment ces technologies grand public, populaires, qui sont utilisées, qui sont industrielles en fait, qui sont vraiment des morceaux de science industrialisés, permettent aussi de produire des expériences esthétiques inédites et complètement nouvelles et qui interrogent par là même, en réflexion, on va dire, le statut de ces technologies et puis notre statut d'humain aussi, peut-être.
Le deep learning, ça c'est l'âge dans lequel on est entré, et on va de plus en plus dans cet âge-là, c'est-à-dire l'algorithme, la machine qui peut aller chercher des informations très profondément, très loin, et la croiser et la recroiser. C'est cet outil-là qui fait qu'il faut questionner aujourd'hui cette question de la machine du goût. Stéphane Louis Gras.
Alors, le deep learning, c'est un âge de l'intelligence artificielle, on va dire. Enfin, c'est une technique d'intelligence artificielle s'appuie sur une autre technique qu'on appelle aussi le machine learning, qui sont couramment, on va dire, de la recherche sur des très très grands stocks de données et de l'établissement de patterns et de modèles cognitifs ou de modèles, on va dire, langagiers. Enfin bon.
Les schémas cognitifs, ouais, c'est ça.
Ouais, les schémas cognitifs, exactement. Et le deep learning, en fait, c'est un nouvel âge de cette recherche dans la data qui repose sur des modèles probabilistes également, enfin, ce qu'on appelle les réseaux de neurones, en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça rejoint aussi un âge de ce qu'on pourrait appeler la culture algorithmique, qui est basée sur l'autonomie et l'émancipation des algorithmes eux-mêmes. C'est-à-dire que, au lieu de dire à un algorithme, voilà, un set de données avec, voilà, ça c'est par exemple une mélodie, ça c'est un rythme, ou ça c'est le nom de l'auteur, ça c'est le nom de l'éditeur. Mm-hmm. Fais-moi des recherches dans toutes ces données et ramène-moi des éléments similaires et appariés. Puisque l'intelligence artificielle fonctionne beaucoup sur l'appariement de données, le deep learning va laisser l'algorithme, on va dire, autonome dans un énorme set de données le laisser revenir avec ses propres hypothèses ou ses propres trouvailles, on va dire, un peu comme un enfant.
Il va se nourrir lui-même, en fait, de sa recherche. Il va évoluer lui-même à l'intérieur de sa recherche.
Exactement.
Est-ce que ça veut dire que on dépasse la capacité d'entendement, la capacité de compréhension de la machine aujourd'hui, si tant est qu'on peut encore parler de la machine?
On dépasse en tout cas les modèles auxquels on est habitué pour comprendre le langage de la machine. Mmh. C'est-à-dire que finalement, ce qui serait de l'ordre d'un langage de l'intelligence artificielle nous devient complètement inaccessible, parce qu'à force de retourner avec des calculs très compliqués et des données extrêmement, qui dépassent l'entendement, effectivement, on accède à une espèce de rationalité, on n'accède plus à cette rationalité algorithmique et computationnelle. Donc ça crée vraiment, aujourd'hui, les chercheurs de l'IRCAM que j'ai pu interroger, qui travaillent sur ce type d'applications de deep learning, par exemple à la musique ou au son. Donc quand ils ouvrent un logiciel comme MATLAB, par exemple, ils me disent on est incapable d'interpréter les résultats et, disons, les suites de process engrangées par l'algorithme. L'algorithme, c'est une suite de calculs, un algorithme. On est incapable de les comprendre. En revanche, les résultats, en tant que tels, c'est-à-dire, par exemple, la playlist qu'aura construit cet algorithme, on est tout à fait capable d'interagir avec.
Mais
comment est-ce qu'elle a été constituée, c'est le mystère du goût aussi, en même temps.
ce mystère du goût, mais qui est le goût de la machine finalement, c'est parce qu'il existe, parce qu'il est, bah, voilà, quelque chose nous échappe, qu'il faut le questionner, qu'il faut dégager, comme vous le faites, une critique.
Ouais, en fait, je crois que ce qui est intéressant dans le fait de poser la question du goût et de l'intelligence artificielle ou des machines du goût, c'est que le goût, par définition, enfin en tout cas dans la pensée occidentale, c'est précisément la question politique. En tant que tel, c'est la question politique de l'esthétique, c'est comment est-ce que je me construis moi ce sujet dans la société dans laquelle je vis aussi, et comment j'affirme une certaine construction et comment je m'approprie certaines productions culturelles, etc. Et je pense que ça, de se poser la question aujourd'hui, justement alors qu'on est entouré et habité aussi par ces technologies d'intelligence artificielle qui viennent nous solliciter sans cesse, etc. Et donc se demander dans quelle mesure ces technologies inscrivent aussi une certaine forme de goût, ça me paraissait important.
La question du façonnage de ce goût dans ce monde qui est le nôtre, dans lequel on vit, voilà, où la machine est un peu nous entoure et notre environnement. C'est de l'écologie sonore que vous faites, Stéphanie-Louise Gras.
Ouais, de l'écologie sonore. Alors, pas dans son acceptation la plus puriste, on va dire.
Mais vous questionnez quelque chose qui est de l'ordre de... Alors, vous le dites, je crois, quelque part, de l'infraordinaire, ouais. Pour reprendre un terme péréquin, l'infraordinaire de nos pratiques, de notre consommation culturelle. Et ça, c'est ce qui nous entoure. En ce sens, c'est...
Tout à fait. Je pense que on entend souvent, en tout cas, des formes d'opposition schématique entre la machine et l'homme, entre dans cette peur du formatage. Hein, moi, j'appelle pas ça un formatage, même si bon, on pourrait l'appeler comme ça. Et je pense que plutôt qu'un formatage, c'est intéressant de poser la question en termes d'écologie, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça participe et nous baigne et nous entoure et nous maintient dans une immersion qui est à la fois très technique et très matérielle. Hein, ce sont des phénomènes très concrets. Algorithmes, les plateformes de streaming, la forme streaming, en soi, c'est des choses très très concrètes. Et ce sont aussi des représentations. Ce sont des représentations de ce qui était la musique, de ce qu'est la musique, de ce qu'est le son, de ce qu'a été le son. Et ce sont des représentations de ce que nous sommes, nous aussi, sujets écoutants.
Oui, c'est ça. C'est moins une forme d'opposition que la question de l'interface, l'interaction avec cet environnement.
Absolument. Absolument, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que le streaming, dans sa forme contemporaine, on va dire, ça, c'est un mélange de résidus, on va dire, de l'univers du téléchargement illégal, du peer-to-peer, etc. Techniquement, d'ailleurs, ça s'en inspire, parce qu'en fait, c'est du téléchargement en mémoire tampon. Enfin, voilà, donc, et par ailleurs, c'est aussi un mélange de radio, hein, que vous connaissez bien, qu'effectivement, qui va réactiver une forme d'imaginaire du flux, de la musique comme flux, du son comme flux sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut dire que c'est devenu véritablement un média, ou en tout cas une forme médiatique stabilisée, parce qu'en fait, on a vu apparaître plein de plateformes de streaming ces 10 dernières années, et elles se construisent toutes un peu de la même manière, au moins visuellement, j'ai envie de dire, mais même en termes d'usage, avec le player, le catalogue, les playlists, etc. Et ce sont toutes ces stabilisations sémiotiques, on va dire, moi, qui m'ont intéressé d'observer pour voir comment est-ce qu'elles renvoyaient aussi à une forme de normalisation esthétique qui reposait aussi sur une acceptation de ce que c'est qu'écouter de la musique sur Internet, de comment est-ce que je fais quand je dois cliquer sur un fichier, quand je dois augmenter le volume, quand je veux liker un morceau. Hein, d'ailleurs, voilà, tous ces petits gestes infraordinaires, pour prendre ce terme, qui forment une écologie sonore contemporaine, effectivement, et qui, à mon sens, doivent être observés pour comprendre ce qui se passe sur un plan plus général.
C'est-à-dire ? Le plan plus général. Elle est là, la question politique, alors.
Oui.
La normalisation.
Oui, la normalisation, et puis surtout notre cohabitation, les représentations qu'on construit avec toutes ces interfaces, avec toutes ces technologies, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça forge des nouvelles cultures, des cultures numériques, et qui renvoie aussi à des sujets industriels, à des sujets évidemment éminemment juridiques et économiques. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense, par rapport à la question de l'écoute et comment est-ce que ça nous permet de comprendre cette politique de la culture numérique, on va dire, ou des cultures numériques, c'est que l'écoute en tant que telle, en fait, la musique, ça a été le premier objet culturel largement numérisé sur les réseaux. Donc on a un stock massif d'usages, et on est capable de comprendre En tout cas, on est capable de modéliser, de schématiser sur la base de calculs statistiques, mais aussi sur la base de modèles d'intelligence artificielle un peu différents comme le deep learning dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il y a vraiment une spécificité du son et de la musique pour comprendre ce que les gens font avec la culture numérique et ce que la culture numérique fait aux gens.
Et c'est-à-dire que par le biais de la musique, c'est pas peut-être par la musique que les machines nous connaissent le mieux, mais on peut extrapoler, en tout cas, ça peut être une base pour nous connaître mieux ailleurs.
Peut-être. En tout cas, la musique, qui est aussi une production éminemment corporelle, parce que peut-être non oculocentrique, pardon pour ce gros mot, mais parce que effectivement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œil ne joue pas, c'est ça? Ok.
Ça veut dire que, en tout cas, on n'est pas dans une suprématie de la vision. Enfin, ouais. On y revient. Mais en tout cas, pour comprendre la musique et comprendre le son, on n'a pas forcément besoin des yeux, même si évidemment avec le numérique, on est de plus en plus dans des formes audiovisuelles. De perception, mais en tout cas je pense que ouais, la musique et les machines aujourd'hui s'intéressent beaucoup à nos affects en fait, et s'intéressent beaucoup à nos corps et à nos manières de, et à nos émotions, et je pense que la musique est précisément centrale là-dedans aussi pour participer de cette industrie des affects et de l'émotion et préciser les technologies qui nous entourent et qui nous traquent.
Stéphane-Héloïse Gras, musicologue et philosophe, post-doctorante donc au sein de la chaire pour un humanisme numérique à la Sorbonne. Voilà, j'ai essayé de le dire correctement. Dernière question, ça c'est en fait un retour sur soi-même de faire un travail comme ça, non? C'est sa propre pratique, c'est questionner sa propre génération aussi.
Oui, tout à fait. Je ne suis pas génération Y, convaincue. Mais en tout cas, oui, je suis née avec les plateformes. Je ne suis pas née avec les plateformes, mais j'ai grandi et ma culture musicale s'est construite avec les plateformes. Elle s'est construite aussi dans une réflexivité par rapport à ce que c'est que l'écoute, puisque je suis sourde de naissance. Et donc effectivement, Peter Zandig, que je citais aussi tout à l'heure, a dit dans un très joli livre que l'écoute, c'est quoi? C'est savoir s'entendre, entendre. C'est savoir s'écouter, écouter. Et c'est savoir écouter l'autre qu'on écoute quand on écoute soi-même. Donc peut-être qu'effectivement, j'ai essayé de me réapproprier ça à travers un travail de recherche.
Ce travail de recherche, cette thèse qui est à venir en publication dans quelques mois chez Hermann, oui. si tout se passe bien, c'est ça?
Alors oui, il y a une publication prévue chez Hermann pour le mois de septembre, si tout va bien. Il y a également une publication prévue avec les éditions de la Philharmonie de Paris, peut-être un petit peu plus tard, c'est-à-dire en début 2017.
Voilà, Stéphane-Héloïse Gras, machine du goût et écoute en ligne. Merci beaucoup d'être passé par ici.
Merci.
Voilà, c'est la fin de Supersonic ce soir. Pour aller plus loin, commenter, réécouter, exporter, partager, c'est à franceculture.fr. L'émission était préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. Et au son ce soir, il y avait Delphine Baudet et Cédric Chatelus. Dans un instant, vous retrouvez les nuits de France Culture. Portez-vous bien et à samedi prochain.